Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Des catholiques de rite oriental de toute l'Ukraine et de la diaspora sont attendus à Kiev. Ils vont participer à l'anniversaire de la conversion de Vladimir le Grand. Une cathédrale sera consacrée en présence d'un envoyé spécial du pape François. La société civile du Nord Kivu, indignée par l'inaction des casques bleus, elle a décrété 3 jours de deuil et annonce une série d'initiatives. Elle demande à l'ONU de mener une action offensive pour protéger les civils. En Inde, les enfants les plus démunis sont les premières victimes du climat généralisé de corruption, de négligence et d'ignorance, ainsi que du manque d'hygiène. Rarement scolarisés, ils sont envoyés au travail dès leur première enfance. Nous verrons que les Salésiens s'efforcent de leur venir en aide. Et en fin d'émission, ne manquez pas le commentaire de l'Évangile. Mais tout d'abord, ce nouveau drame de l'immigration en Italie. Des migrants se sont noyés samedi à l'aube sur une plage de Catane en Sicile. Ils tentaient de débarquer d'un bateau transportant une centaine d'autres immigrés provenant surtout de Syrie et d'Égypte. Au début du mois de juillet, on a prié dans une église de Catane pour tous ceux qui ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'Europe. Mourir d'espérance, c'était le titre de cette initiative lancée par des associations qui viennent en aide aux communautés immigrées. Parmi eux figurent de nombreux Mauriciens, des Érythréens et des Égyptiens. Début juillet, le pape François s'était rendu sur l'île sicilienne de Lampedusa lors de son premier voyage hors de Rome afin de pleurer les milliers de migrants qui ont péri ces dernières années pendant la traversée de la Méditerranée. Le pape François sera représenté par un envoyé spécial aux célébrations marquant le 1025e anniversaire du baptême de la Rousse, un territoire qui englobait à l'époque la Russie, l'Ukraine et le Bélarus actuel et qui avait Kiev pour capitale. C'est un cardinal lituanien, Audry Bačkis, qui représentera le Saint-Père aux commémorations organisées par l'Église gréco-catholique ukrainienne les 17 et 18 août à Kiev. Une nouvelle cathédrale sera consacrée à cette occasion et le synode des évêques se réunira au même moment. En 1988, le millénaire du baptême du prince Vladimir de Kiev avait marqué un tournant dans la vie de l'Église orthodoxe dans le monde soviétique. Moscou, Kiev et Minsk sont donc en fête cet été. Xavier Sartre.
Vladimir le Grand, prince de Kiev, est l'une des grandes figures politiques et spirituelles de la Russie médiévale. Lorsqu'il prend le pouvoir, ce prince païen tente de nouer des alliances avec les Bulgares, les Khazars, les Allemands et les Byzantins. En quête de vérité, il doute de sa propre foi et envoie des ambassadeurs recueillir des renseignements sur les religions de ces peuples. Les envoyés du prince slave seront fortement impressionnés par la splendeur de la liturgie célébrée dans l'église Sainte-Sophie de Constantinople. L'encens projeté vers le ciel par le balancement des lourds encensoirs, l'or des icônes, les hymnes célestes. C'était plus de 60 ans avant le schisme entre catholiques et orthodoxes. Le christianisme, encore uni, avait deux formes. L'une orientale liée à Byzance, l'autre occidentale liée à Rome. Vladimir invite des missionnaires byzantins et se laisse convaincre par leur prédication. En 988, il sera baptisé avec tous ses sujets et épousera une princesse byzantine. Ce prince violent et débauché qui n'avait pas hésité à assassiner son propre frère et qui avait sacrifié des chrétiens aux dieux païens change radicalement et fonde une famille exemplaire. Il favorise la réconciliation entre les ethnies, la peine de mort est abrogée, l'esclavage pratiquement aboli. Si les historiens restent divisés sur certains détails de son baptême, tous reconnaissent que la christianisation de la Rousse a déterminé l'avenir de ces territoires et pas seulement. Vladimir poussera son cousin Olaf à faire baptiser la Suède. Dans une lettre apostolique en 1988, Jean-Paul II avait plaidé en faveur de l'unité des églises gréco-catholiques et orthodoxes, toutes deux filles de Saint Vladimir.
Mais les deux églises continuent à célébrer cet anniversaire séparément. Ainsi, les cérémonies orthodoxes ont commencé le 24 juillet par la célébration d'une divine liturgie présidée par le patriarche Kirill Ier en la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, avec la participation de hauts responsables orthodoxes venus de plusieurs pays, Alexandrie, Jérusalem, Géorgie, Serbie, Bulgarie. Quelques jours plus tard à Kiev, les présidents ukrainiens, russes, moldaves et serbes ont assisté à un office d'action de grâce sur le mont Saint-Vladimir. Enfin, une liturgie en plein air s'est déroulée à Minsk. Des centaines de milliers de fidèles ont pu vénérer une des plus grandes reliques du monde chrétien, la croix de Saint-André, portée en pèlerinage. J'ajoute qu'à l'occasion de cet anniversaire, Caritas Ukraine a lancé un projet en faveur des jeunes en difficulté. Ce projet sera présenté au cours des célébrations des 17 et 18 août. Et l'archidiocèse de Québec se prépare lui aussi à un événement clé à partir du 8 décembre, une année jubilaire marquant le 350e anniversaire de la fondation de Notre-Dame de Québec, première paroisse catholique d'Amérique du Nord, fondée en 1664 par Mgr François de Laval. La basilique cathédrale Notre-Dame de Québec aura à cette occasion sa porte sainte. Pour Mgr Lacroix, cette année de grâce pourra ainsi permettre aux catholiques du Québec de redécouvrir la beauté de la foi.
C'est un grand jubilé pour nous et nous allons célébrer dans la joie les 350 ans de fondation de la première paroisse en Amérique du Nord, au nord des colonies espagnoles. Alors c'est Notre-Dame de Québec, la paroisse qui est aujourd'hui la paroisse cathédrale, la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Et nous avons voulu faire de cette fête une année jubilaire. L'Assemblée des évêques catholiques du Québec a accepté d'appeler ça une année jubilaire, pour rendre grâce à Dieu pour cette communauté chrétienne qui est la paroisse mère de toutes les communautés, finalement, de notre grand continent du Nord, du Canada, des États-Unis. À l'époque de Mgr de Laval, lorsqu'il a fondé la paroisse, c'était probablement une des plus grandes au monde. Elle s'étendait sur presque tout le Canada et jusqu'au sud des États-Unis, jusqu'en Louisiane. C'est pas rien, hein? On pouvait pas faire la visite pastorale à toutes les semaines. Mais enfin, alors nous voulons rendre grâce à Dieu pour ces hommes et femmes qui, au long des siècles, ont transmis la foi, l'ont célébrée, ont été proches des pauvres, qui ont eu un rayonnement dans la société, qui ont bâti des communautés humaines, mais aussi chrétiennes. Et ce sera non seulement pour rendre grâce pour ce passé, mais l'occasion de dire, bien, moi, j'ai le goût de poursuivre cette route. Et nous avons eu le privilège d'obtenir la permission d'ouvrir une porte sainte dans le côté de la cathédrale. C'est une nouvelle porte qui n'existe pas, qui sera faite dans les prochains mois. Magnifique porte en bronze. Alors, nous sentons, et c'est l'appel des dernières décennies, des papes des derniers temps, de l'Église tout entière à la nouvelle évangélisation. Nous recentrer sur le Christ, sur l'Évangile. Nous recentrer sur ce besoin de nous enraciner dans la foi chrétienne. Nous avons beaucoup de catholiques, peut-être pas assez de chrétiens. Et je dis ça sans porter de jugement. Nous avons beaucoup de gens de baptisés qui ont vécu l'un ou l'autre des sacrements. Mais cet appel à la nouvelle évangélisation en est un qui nous dit peut-être qu'on n'a pas encore découvert la beauté de ce trésor. Nous avons à développer ce cadeau. Beaucoup de personnes, peut-être, en sont restées à une foi qui est davantage culturelle, rituelle, sans une adhésion personnelle au Christ. Le pape Benoît XVI nous en parlait souvent de cela, hein? Être chrétien, ce n'est pas d'abord croire en des dogmes, ni un code de morale, ni une idéologie, c'est de croire en quelqu'un, Jésus-Christ. Alors, cette porte veut nous faire vivre un pèlerinage pour entrer à nouveau dans la foi, et alors nous aurons pendant toute l'année des célébrations, des activités, mais au jour le jour, la possibilité d'accueillir les groupes, les personnes individuelles, les familles, les paroisses, les diocèses, qui voudront venir passer par cette porte et se renouveler dans la foi.
L'archevêque de Québec, Mgr Lacroix, interrogé par Manuela à Fiji. Pourquoi prier pour la France? C'est le thème d'un colloque qui se tiendra le 13 août au Puy-en-Velay à l'occasion de la rénovation de la statue de Notre-Dame de France. Le colloque sera présidé par le cardinal Paul Poupard, invité d'honneur du 15 août. En effet, des prières pour la France sont organisées chaque année le jour de l'Assomption. Mais cela soulève de nombreuses questions. Les nations ont-elles une vocation? Faut-il prier pour son pays? Que demander pour celui-ci? Plusieurs conférenciers ont été invités à répondre à ces questions. Honneur qui vous, dans l'Est de la République démocratique du Congo, des associations et des organisations se mobilisent. La société civile du Nord Kivu à leur tête a lancé vendredi la première étape d'une série d'actions. 3 jours de deuil en mémoire des victimes tuées ou enlevées dans la région. La société civile du Nord Kivu avait laissé une semaine à la MONUSCO, la brigade d'intervention de l'ONU, pour lancer son action offensive contre le M23, le principal groupe armé de la région. Une demande restée sans réponse jusqu'à la fin du délai, le 8 août. Écoutez Maître Marc Cavota, vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu.
sont des actions de pression. Ce sont des actions que nous allons définir au fur et à mesure. Nous venons de débuter par ces 3 journées de deuil. Nous plairons toutes les personnes tuées, toutes les personnes enlevées, y compris les 3 prêtres à territoire de Béni, y compris plus de 500 autres civils dans ce territoire par le groupe terroriste ADF Nalu. C'est la première étape. Le samedi, nous avons demandé à la population à se vêtir en noir pour exprimer notre indignation et notre inquiétude en mémoire de ces personnes tuées ou enlevées injustement. Et dimanche, nous allons pouvoir, avec des confessions religieuses, toutes tendances confondues, organiser des cultes et des prières en mémoire de ces personnes disparues, tuées ou enlevées. Et nous allons en profiter pour prier au reste d'actions de grande envergure que nous allons mener. Et la semaine prochaine, nous pourrions annoncer d'autres actions éventuellement à mener, à cas où nous n'observons pas d'évolution dans les chefs de la brigade de la MONUSCO vers une action offensive contre les groupes armés.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. En Inde, l'université catholique Don Bosco a décidé d'ajouter une nouvelle matière à son programme académique, un master sur les droits des enfants et le développement. Les Salésiens veulent promouvoir la protection des enfants sur la base des conventions des Nations Unies et développer leur appartenance et leur contribution à la communauté. Le cours, qui démarre le 19 août, s'adresse en particulier aux organisations et aux autorités publiques. Dans l'état de l'Assam, où œuvrent les Salésiens, les adultes travaillent dans les plantations de thé dans des conditions extrêmement précaires. Les rues sont peuplées de sans-abri, de marginaux, ainsi que d'enfants pauvres et abandonnés. Les Salésiens ont déjà créé, il y a plus de 10 ans, la Maison de l'Amour, une structure d'accueil pour les enfants qui endurent des privations. Ces derniers peuvent y trouver un soutien matériel et psychologique, ainsi que des cours d'alphabétisation. En Chine, on est sans nouvelles d'un prêtre catholique arrêté par la police mercredi matin alors qu'il était à bord de sa voiture. Le père Sang Wanjun est âgé de 39 ans. Il a toujours refusé d'adhérer à l'association patriotique, une sorte d'église nationale créée par Pékin et officiellement indépendante de l'autorité du pape. Selon l'agence catholique Asia News, la répression s'est accentuée ces dernières années contre l'église clandestine. Des prêtres et des évêques ont été arrêtés, assignés à résidence ou soumis à des sessions d'études pour les convaincre d'adhérer à la structure officielle. On a perdu les traces de la plupart d'entre eux. Mais les autres confessions ne sont pas non plus épargnées. Dimanche dernier, un pasteur protestant a été arrêté et sa communauté a reçu l'ordre de cesser de se réunir. Plus d'une 20aine de policiers sans mandat sont intervenus lors de l'office dominical du matin auquel assistaient plusieurs dizaines de fidèles. Ils ont forcé les portes, interpellé le pasteur et confisqué toutes les bibles et livres de prière. Dans le cadre de nos rediffusions estivales, je vous propose à présent de réécouter un entretien avec l'économiste Elena Lacida, qui enseigne à l'Institut catholique de Paris. En septembre 2012, Catherine Aubin l'avait interrogée au sujet de son livre « Le goût de l'autre, la crise, une chance pour réinventer le lien ». Un ouvrage plein d'espérance dans lequel l'auteur présente l'économie sous un jour totalement différent, comme un vrai projet de vie en commun, nourri d'initiative. Il s'agit de réinjecter le goût de l'autre et de la relation humaine dans la vie économique. Elena Lacida, invitée de notre rubrique hebdomadaire « Livre pour Dieu ».
Pour moi, l'économie, contrairement à l'idée qu'on a habituellement comme quelque chose qui s'occupe surtout de la circulation des biens, de la production, de la richesse, de l'argent, je pense qu'avant tout, l'économie, c'est un lieu où se tissent des relations. C'est un lieu où se construit le vivre ensemble. Et donc, du moment que la relation apparaît comme centrale dans l'activité économique, dans l'économie, donc tous les sens sont sollicités. Et cette expression du goût de l'autre, c'est le fait de dire que l'économie, ce n'est pas seulement un espace de concurrence et de rivalité, mais que ça peut être aussi un lieu, au contraire, où on découvre l'autre, on prend le goût de l'autre et on a envie parfois de faire quelque chose avec lui et pas seulement contre lui.
Quels sont les exemples justement que vous donnez quand on dit on peut faire quelque chose avec l'autre ?
Je me réfère surtout au domaine sur lequel je travaille le plus, que c'est ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. C'est une multiplicité des pratiques qui sont nées pour la plupart de manière très informelle, mais que pour moi disent justement une autre manière de faire de l'économie. Alors par exemple, c'est le commerce équitable, le microcrédit, l'épargne solidaire, c'est les systèmes d'échange de savoir. C'est-à-dire, c'est plein de pratiques, autant au niveau commercial, au niveau financier, au niveau productif, qui ont comme objectif non uniquement la rentabilité financière ou monétaire, mais avant tout une rentabilité, je dirais, sociale et sociétale. C'est-à-dire, la finalité de l'activité économique est justement donnée par cette dimension relationnelle et sociale, et c'est faire quelque chose avec les autres plutôt que uniquement obtenir un revenu pour pouvoir répondre aux besoins matériels.
Comment enracinez-vous l'économie au cœur de la Bible?
Ça vient un peu, je dirais, de ma lecture de la Bible, où je pense que c'est un livre qui évidemment parle de Dieu, mais que pour parler de Dieu, il passe par les hommes. Et donc, c'est ça ce que j'essaye de mettre en résonance dans mon livre, cette approche humaine, ou je dirais anthropologique de la Bible, avec une activité humaine qui est celle de l'activité économique, et de mettre en résonance ces deux expériences.
L'entretien que vous venez d'entendre était une rediffusion. Et c'est l'heure de retrouver le père Pascal Montavi pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche 11 août, le 19e du temps ordinaire. C'est l'évangile selon saint Luc, chapitre 12, versets 32 à 48. Tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra.
L'évangile de ce jour nous présente trois enseignements sur le royaume des cieux. Il y est question de trésor, de veille et de fidélité. Voyons plus en détail chacune de ces réalités du royaume. Tout d'abord, Jésus invite à vendre ce que l'on a pour acquérir un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mite ne ronge pas. L'appel radical à tout vendre, comme ce fut le cas par exemple pour saint François d'Assise, n'est pas l'appel de tous. De manière plus universelle, par ses paroles, Jésus appelle chacun à tourner son regard vers les réalités célestes. Si nous n'avons pas tous reçu le même appel que saint François, nous sommes en revanche tous appelés à construire nos vies en fonction du royaume, à poser des choix qui sont en accord avec l'enseignement de Jésus. C'est ainsi que nous acquérons un trésor dans les cieux. Pour nous aider à faire ce choix, Jésus donne une maxime. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. La question que nous pouvons nous poser en ce jour est la suivante. Où est notre cœur? Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie? Car c'est là que réside notre trésor. Si le Seigneur n'a pas de place dans la réponse que nous avons donnée à ces questions, alors il est important de laisser l'évangile de ce jour nous interpeller. Un deuxième élément du royaume développé par Jésus est la notion de veille. Le Seigneur dit « Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées ». Jésus nous rappelle que les chrétiens sont dans l'attente du retour du Christ. Cette vérité de foi est souvent oubliée. Pourtant, le Seigneur attache une béatitude à cette veille. « Heureux les serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller ». Une béatitude n'est pas uniquement la promesse d'un bonheur futur. Elle est aussi l'affirmation d'un bonheur déjà présent. Certes, ce bonheur présent est encore incomplet, car les peines de chaque jour ne manquent pas. Mais ce bonheur est bien réel. Il nous est donné comme preuve que l'enseignement du Christ est la vérité. Jésus va plus loin encore. À ceux qui auront veillé, il dit qu'il les servira lui-même, lui le Seigneur. Cette affirmation ne peut manquer de nous surprendre. Elle nous enseigne que Jésus est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Christ ne fait pas de nous des esclaves, mais des fils adoptifs. Il nous libère. Enfin, devant un tel enseignement, Pierre s'exclame « Seigneur, cette parabole s'adresse-t-elle à nous ou à tout le monde ?» Jésus répond à cette question par une nouvelle parabole. Il y est question d'un serviteur qui reçoit une récompense car il est demeuré fidèle à la tâche qui lui a été confiée alors que le maître tardait. Cet appel à la fidélité ne concerne pas uniquement les 12 apôtres, mais tous les chrétiens. À nous aussi, parfois, il peut sembler que le Seigneur tarde. C'est alors qu'il est nécessaire de poser un acte de fidélité en faisant mémoire du oui que nous avons déjà donné au Seigneur. En ce jour, prions pour que nos cœurs s'ouvrent toujours plus aux réalités du royaume, que celui-ci soit notre trésor, afin que nous accomplissions fidèlement la tâche que le Seigneur nous a confiée au sein de l'Église.
Et Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez également nous rejoindre sur notre site internet radiovaticana.va et sur Facebook Radio Vatican en français. Bon dimanche à tous.